une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, samedi 25 juillet, fidèle au rendez-vous, nous allons vous proposer un résumé de 7 jours d'actualité dans le monde, alors destination Cuba, le Burundi, la Turquie par exemple. Nous allons aussi beaucoup parler de la France et de la mer que vous entendez en fond grâce à Vanessa Orvensky. Non, parce que nous sommes en pleine période de vacances d'été, quoique, mais parce que la mer a un intérêt géopolitique et est au cœur en quelque sorte de l'actualité aussi. Nous le verrons avec notre invité Cyril Coutancé, auteur d'un atlas historique de la France maritime. Une semaine d'actualité donc à écouter aussi sur le site de la radio www.rfi.fr. Bonjour Cyril Coutancé.
Bonjour.
Ça fait toujours du bien d'écouter la mer.
Ah, ça fait du bien, oui. Ouais. En cette période, c'est très agréable.
Alors, vous êtes le directeur de recherche du Centre d'études stratégiques de la Marine. On peut dire un mot d'ailleurs de ce Centre d'études stratégiques de la Marine. Vous élaborez des plans, des géopolitiques.
Non, c'est un centre de recherche qui s'intéresse à l'ensemble des problématiques du maritime, aussi bien les questions géopolitiques que l'économie maritime, l'environnement aussi qui est présent.
Oui, alors nous, grâce à vous, nous allons vivre 7 jours d'actualité sur les océans du globe, l'actualité vue de la mer en quelque sorte. Votre atlas est un bel atlas, un bel objet en plus, qui rappelle à quel point la mer a été et est toujours importante pour la France.
Oui, la mer
les mers
est essentielle pour la France. Quand on sait qu'aujourd'hui, par exemple, la France est à la tête du deuxième domaine maritime du monde,
oui, juste
derrière les États-Unis, c'est un pays profondément maritime. Et c'est un pays qui a toujours été maritime tout au long de son histoire. Il y a eu des très belles périodes, il y a eu des occasions manquées aussi, mais il y a eu de grandes périodes donc d'aventures maritimes avec des explorateurs, des commerçants aussi. Au niveau des occasions manquées, il y a toujours quelque chose auquel je pense, c'est la rencontre qui a eu lieu entre le frère de Christophe Colomb, qui cherchait à financer son voyage aux Amériques, et la régente du Royaume de France, Anne de Beaujeu. Le frère de Christophe Colomb présente son projet et la régente hésite, prend conseil des grands barons du royaume qui disent non, ça n'est pas sérieux, ça n'amènera jamais rien. Et la France passe à côté de la conquête de l'Amérique.
Est-ce qu'on est aujourd'hui, on va parler de l'actualité dans le monde et en France aussi, est-ce qu'aujourd'hui on est à un autre tournant avec un risque encore d'occasion manquée?
On est à un véritable carrefour encore de notre histoire, dans le sens où donc on est à la tête du deuxième domaine maritime du monde. On a des acteurs économiques qui sont absolument performants dans tous les domaines du maritime. Le secteur de l'économie maritime en France aujourd'hui, c'est un plus grand nombre d'emplois, représente un plus grand nombre d'emplois que l'aéronautique ou que l'automobile. Mais c'est un secteur qui reste méconnu et c'est un secteur qui a besoin forcément de soutien pour connaître son plein développement.
Parce qu'on a l'impression parfois, plus qu'il ne le faudrait, que la France tourne le dos à la mer, même quelquefois, non?
Oui, on a ce sentiment-là, alors que au niveau de ces acteurs économiques, c'est pas du tout le cas. Et au niveau des populations littorales, c'est pas du tout le cas non plus. Il y a une espèce de césure entre, effectivement, les populations qui vivent sur le littoral et qui produisent des entreprises, qui sont à la tête d'entreprises souvent très intéressantes, et de géants mondiaux, et des populations qui sont à l'intérieur des terres, effectivement, et qui sont tournés plutôt vers des activités terriennes ou terrestres.
Alors Cyril Coutancé, nous allons commencer notre tour du monde, en quelque sorte, comme chaque semaine à la même heure. Première étape de notre voyage, le Burundi, donc l'Afrique. Burundi dont les habitants élisaient lundi leur président sans enthousiasme aucun. Écoutez l'un d'entre eux.
Est-ce que vous êtes allé voter déjà?
Non, pas encore. Je me dis qu'il y a encore du temps. Hein.
Mais donc vous pensez aller voter?
Oh, ça dépendra.
Qu'est-ce qui vous gêne dans cette élection?
On dirait qu'il y a un désintéressement.
Et qui est dû à quoi?
Oh, je crois que c'est dû au fait que l'organisation telle qu'il est ne satisfait pas beaucoup de gens.
Qu'est-ce qui fait la différence entre la présidentielle et les législatives et communales pour vous?
La présidentielle, là on voit qu'il y a pratiquement un seul candidat.
Propos recueillis par notre envoyé spécial Sonia Rollet. Autre destination maintenant, Cyril Coutancet, partons dans le golfe du Mexique à Cuba à l'occasion de la reprise effective des relations diplomatiques de ce pays avec les États-Unis. Lundi, c'est un moment véritablement historique après 54 ans de rupture. Envoyé spécial à La Havane, Véronique Guémard.
C'était le jour que beaucoup attendaient après 54 ans d'hostilité. Devant l'ambassade américaine, quelques 200 personnes sont venues ce lundi matin pour être témoins de ce moment. Des Cubains venus de différents quartiers, des voisins, certains arborant des inscriptions Welcome USA, bienvenue aux États-Unis. Des Américains aussi, en voyage organisé par des fondations, certains le drapeau à la main, se réjouissaient de cet événement qui va retisser des liens nécessaires entre les deux pays voisins sur un pied d'égalité. Des touristes brésiliens, mexicains, tous avaient les yeux rivés sur le grand bâtiment de béton, d'acier et de verre des années 50, qui devenait donc officiellement l'ambassade américaine. Une petite déception, il n'y a pas eu de levée de drapeau, un protocole que se réserve le secrétaire d'État américain lors de sa visite officielle le 14 août prochain. Les Cubains sont soulagés, ils pensent que la fin de cette guerre froide avec le voisin américain redonnera confiance non seulement aux investisseurs des États-Unis, mais du monde entier, car l'économie est mal en point, les secteurs de l'agriculture, des transports, de la construction en ont terriblement besoin. Les salaires sont très bas et la majorité des Cubains a du mal à joindre les deux bouts. Sur le Malecón hier soir, qui était noir de monde, sur le bord de mer, avec la chaleur de l'été, beaucoup me disaient admirer le président américain Barack Obama pour son geste qu'ils ont qualifié de courageux, ce que n'ont pas fait ses prédécesseurs.
7 jours dans le monde.
Avant de vous retrouver, Cyril Coutancet, partons pour les Philippines. Notre tour du monde continue. Les Philippines, aux prises avec les prétentions chinoises sur des îles en mer de Chine méridionale, vont accroître sensiblement leur crédit militaire l'année prochaine. Juliette Garmante.
Un budget 2016 cinq fois supérieur à celui de 2013, c'est ce qui s'appelle un sérieux rattrapage. Il faut dire que l'armée philippine, l'une des plus pauvres d'Asie du Sud-Est, avait fortement pâti du coût de la reconstruction du pays après le passage du typhon Haiyan. Cela dit, les moyens militaires de Manille restent infimes face à ceux de la Chine et les Philippines comptent beaucoup sur leur coopération avec l'allié américain pour contrer les ambitions de Pékin. Le gouvernement Aquino va rouvrir l'ancienne base militaire américaine de Subic Bay pour y stationner les nouvelles frégates et avions de surveillance acquis grâce à cette augmentation de budget. Subic Bay se trouve à quelques 200 km de haut fond contrôlé par les Chinois. Pékin revendique la possession de toute la mer de Chine du Sud sur une zone qui s'étend des Philippines au Vietnam et à la Malaisie, bien loin de son territoire. Plus au nord, la Chine est également en conflit avec le Japon sur l'archipel des Senkaku Diaoyu. Et pour mieux asseoir ses prétentions, Pékin s'est lancé dans la construction d'îles artificielles. Une politique à nouveau dénoncée hier par le ministère japonais de la Défense, avec à l'appui des images satellitaires publiées dans son rapport annuel.
Une semaine d'actualité donc en compagnie de Cyril Coutancet, auteur de L'Empire des Mers, Atlas historique de la France maritime aux éditions CNRS, ou plutôt CNRS éditions. J'ajoute que vous avez écrit aussi une géopolitique des océans, un livre, un autre atlas publié en 2012, il me semble. Alors là, il y a matière pour vous à commentaire. D'abord, Cuba, c'est le rétablissement des relations diplomatiques avec les États-Unis, c'était véritablement un moment historique.
C'est un moment historique et du point de vue maritime, c'est un enjeu très fort pour Cuba pour que l'activité économique reparte. Mm-hmm. Comme vous le savez, l'économie mondiale à l'heure actuelle, elle est portée par les gigantesques porte-conteneurs qui sillonnent les mers.
Il y a 90... qui ont révolutionné
ouais. Effectivement et le commerce au sens large. La globalisation n'existerait pas sans les porte-conteneurs. On a 90% du commerce international qui se fait par ce biais-là, qui se fait par la mer. Et Cuba, donc, anticipe la fin des sanctions, anticipe la fin de l'embargo, en construisant un port à Mariel, qui est destiné à accueillir justement tous les porte-conteneurs qui vont pouvoir franchir le canal de Panama quand il sera élargi. Donc c'est des conteneurs qui peuvent porter 12 000 boîtes. Et Cuba se rêve, en fait, s'imagine en pôle redistributeur de l'ensemble de ces marchandises dans toute l'Amérique latine et les États-Unis. Donc c'est un enjeu économique fort pour Cuba. La France est d'ailleurs présente par le biais de CMA-CGM qui est présente sur la zone franche de ce port. Mmh. Il y a des investissements très importants qui sont réalisés en coopération avec les Brésiliens. Et il y a un autre marché aussi qui peut s'ouvrir pour Cuba, c'est le marché de la croisière, qui s'est développé de façon faramineuse aux Caraïbes. On a des des bateaux de croisière qui peuvent comporter 4000 passagers, jusqu'à 6000 pour l'instant, c'est un record, et qui sillonnent la mer des Caraïbes allant d'île en île. Et pour l'instant, effectivement, Cuba n'est pas encore un marché pour ces bateaux, mais je suis certain qu'ils attendent ce marché avec impatience.
Ça va changer beaucoup de choses, en fait, pour le pays, évidemment.
Ça va changer considérablement les choses.
Au tourisme.
Tout à fait, oui. Ça va être un flux et un afflux touristique absolument considérable.
Il y a beaucoup d'Américains, du coup, qui vont aller à Cuba. Hein.
Et
encore plus.
Oui, ce sont les sociétés américaines qui sont à la tête de ce trafic. Dans les Caraïbes, en tout cas.
Ouais. Alors Cyril, quand on s'est en Asie, cette fois, la mer de Chine méridionale est un carrefour des routes maritimes, carrefour stratégique.
Un carrefour stratégique, on a en fait tous le concentré de tous les enjeux maritime actuelle, c'est-à-dire que on a à la fois une lutte pour les ressources. En mer de Chine, il y a du pétrole, il y a du gaz, il y a du poisson. La Chine est par exemple le premier consommateur de poisson au monde depuis quelques années, donc c'est un enjeu fort pour elle. On a évidemment des enjeux stratégiques aussi, c'est-à-dire on connaît le fameux collier de perles chinois, donc où la Chine cherche à disposer de points d'appui jusqu'en océan Indien et jusqu'au golfe Persique, d'où elle tire son pétrole et son gaz. Donc c'est une zone qui concentre vraiment tous les enjeux et on a des conflits de délimitation qui existaient,
des rivalités territoriales,
voilà, et qui existaient depuis très longtemps. Du temps de Deng Xiaoping, ça avait été géré de façon totalement différente, puisque Deng Xiaoping disait on n'a qu'à s'entendre pour exploiter les richesses en mer, donc le pétrole et autres, avec les pays riverains, et on laissera la résolution des conflits de délimitation aux générations futures. Là, manifestement, c'est l'inverse qui est choisi, et donc le positionnement chinois ou de revendiquer une zone très importante en mer de Chine entraîne une course à l'armement naval de tous les pays de la zone, parce que il y a les Philippines comme on l'entendait dans le reportage, mais aussi le Vietnam,
la Malaisie
et c'est cette semaine aussi où on a vu, et ça c'est un élément qui est très important aussi, que le Japon donc a réussi à faire, le premier ministre japonais a fait adopter en première lecture à la chambre basse la réforme de la constitution japonaise qui donne la possibilité, qui donnera, quand le texte sera définitivement adopté, qui donnera la possibilité au Japon d'intervenir pour soutenir des alliés. Mmh. Jusqu'à présent, on était dans une neutralité stricte, et maintenant, on rentre dans une autre dimension, et c'est très lié à la question chinoise aussi.
Et pendant ce temps-là, la Chine construit même des îles artificielles, on le sait, hein, pour consolider son réseau de points d'appui, j'imagine, et construit surtout une marine.
Alors, les îles artificielles, c'est aussi très lié au droit international, à la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, qui donne des zones économiques exclusives, donc ce qui entoure ces îles et donc la possibilité d'exploiter les ressources de ces eaux. Les zones économiques exclusives sont possibles si les îles émergent à marée haute. Et donc, construire des îles artificielles, c'est un moyen d'avoir des aides et d'étendre son emprise maritime. Et au niveau de la marine, effectivement, la Chine investit beaucoup dans sa marine. Il y a désormais un porte-avions. On modernise à tout va. Ceci dit, il faut aussi relativiser ce mouvement dans le sens où il y a une seule marine qui est ultra-dominatrice à l'heure actuelle, c'est la marine américaine. Et la marine chinoise n'est pas du tout au même niveau, même en tonnage. Elle est au troisième niveau en tonnage dans le monde. Il y a tout d'abord la marine américaine, ensuite la marine russe, ensuite la marine chinoise.
Marine américaine qui soutient le Japon,
américaine qui soutient ses alliés et de la zone, et qui en même temps cherche à ce que les conflits ne s'enveniment pas. Chaque fois, les Américains, tout le temps de la présidence d'Obama, ça s'est passé comme ça, on cherche à tempérer les conflits, à apaiser au maximum, à ce que ça ne s'envenime pas. Donc on joue un jeu de bascule constant.
Une semaine d'actualité.
Et le voyage continue, Cyril Coutancé. Direction la Méditerranée, maintenant, la Turquie a frappé par un attentat à Surouk, dans le sud-est du pays. Un acte terroriste qui a coûté la vie à plusieurs dizaines de militants pro-kurdes, une action attribuée à l'organisation de l'État islamique. Conséquence immédiate, jeudi, la Turquie a décidé d'entrer véritablement dans la coalition qui a pour objectif de détruire l'EI. Ankara a mis à sa disposition sa base d'Incirlik, non loin de la frontière syrienne. Correspondance de Jérôme Bastion.
L'histoire retiendra sans doute la date du 23 juillet comme étant celle où la Turquie, à défaut d'être vraiment entrée en guerre, sera en tout cas au moins entrée de plein pied dans la coalition internationale contre l'État islamique. Le même jour où elle commençait à verrouiller totalement sa frontière, après un coup de téléphone entre les présidents Obama et Erdogan, des combattants djihadistes ont pour la première fois ouvert le feu sur des militaires turcs et l'armée turque s'est retrouvée engagée dans un duel d'artillerie avec des unités djihadistes. Les militants de l'État islamique auraient tiré sur les militaires turcs stationnés là quand ceux-ci leur ont refusé l'accès au territoire turc. En tout cas, les tanks turcs ont rapidement riposté en pilonnant les positions des islamistes. À la fin de l'accrochage en milieu de soirée, l'état-major a dû démentir avoir exercé son droit de poursuite à l'intérieur du territoire syrien. En tout cas, même si les choses en restaient là pour l'instant, ce grave incident entre l'armée turque et les forces de l'État islamique marque un tournant, une aggravation dans la confrontation de plus en plus directe entre les deux parties, qui risque de ne pas en rester là.
Avant ce retournement diplomatique et militaire, les liens entre la Turquie et l'organisation de l'État islamique étaient pour le moins ambigus. Les djihadistes ont pu compter en effet sur le soutien du gouvernement d'Ankara, Sami Boukhelifa.
Sa force, le groupe État islamique, la doit en partie à la Turquie. Le gouvernement conservateur de Recep Tayyip Erdogan a jusque-là toujours fermé les yeux et ouvert ses postes frontières aux djihadistes. Des milliers de combattants de différentes nationalités ont d'abord transité par la Turquie avant d'aller garnir les rangs de l'organisation État islamique en Syrie et en Irak. Dans ces deux pays, et bien que la Turquie soit membre de l'OTAN, elle a refusé de se joindre à la coalition internationale emmenée par les États-Unis pour combattre ces groupes radicaux. À travers sa politique, l'un des objectif d'Ankara était de laisser agir les extrémistes pour renverser Bachar al-Assad. Une stratégie dangereuse que la Turquie pourrait désormais payer au prix fort. Sous pression internationale, elle a dû revoir sa position par rapport à l'organisation État islamique et renforcer le dispositif militaire à sa frontière. Un changement de posture qui déplaît aux djihadistes. L'organisation État islamique le fait savoir ce lundi à travers un attentat suicide, la première attaque du groupe EI en territoire turc.
Notez aussi qu'en France, la justice suspecte de la Turquie d'avoir commandité le meurtre de 3 militants kurdes à Paris en 2013. Le parquet de Paris a demandé le renvoi d'un suspect, Omar Güney, devant la cour d'assises pour assassinat. Il serait un membre des services de renseignement turcs, information du Canard enchaîné. L'actualité internationale, c'est aussi le Yémen et la réouverture de l'aéroport d'Aden, où un avion militaire saoudien s'est posé mercredi. La veille, un navire chargé d'aide humanitaire du PAM avait accosté à Aden. Rappelons que les combats entre les rebelles houthis chiites et les forces gouvernementales ont fait à ce jour plus de 3600 morts selon l'ONU.
Une semaine d'actualité.
Alors, Turquie, Syrie, cette guerre dans cette région, c'est aussi une guerre qui se prépare et qui part aussi parfois de la Méditerranée. Il y a un dispositif militaire important en Méditerranée.
Cyril Coutances. Il y a un dispositif militaire important. Il y a une voie, par exemple, qui est essentielle pour le régime de Bachar al-Assad. Mm-hmm. C'est le soutien russe qui passe donc par la base russe qui est en Syrie.
La fameuse
base Tartous. De Tartous. Et donc ça, c'est un soutien qui est absolument vital, par exemple, pour le régime de Bachar al-Assad.
Ouais. Alors revenons, pour conclure cette première partie, à la France et à son empire des mers. Est-ce que aujourd'hui il y a un port où deux ports qui comptent en France? Vous avez des chiffres qui sont parlants. Vous dites qu'aujourd'hui, il n'y a pas un seul port français dans les 50 ports du monde, dans le classement, alors que Marseille était le 8e port en 1976. Quelle chute?
Alors, quelle chute, effectivement. Après, bon, il faut replacer ça dans le contexte aussi de la montée en puissance de l'Asie et de la chute de l'Europe. Globalement, les ports européens ont descendu et les ports asiatiques ont monté. Ceci dit, au sein des ports européens, les ports français ont beaucoup plus chuté que d'autres. Oui. Hein. La porte d'entrée maintenant majeure pour tout le commerce international, c'est trois ports essentiellement, c'est Rotterdam, c'est Anvers et c'est Hambourg.
Le premier port français, c'est Anvers, me disiez.
Le premier port d'exportation français, c'est Anvers, effectivement. Ouais. Le Havre et Marseille ont fait de très importantes réformes pour être maintenant performant en tant que tel. Il reste un chantier énorme à ouvrir, c'est leur liaison avec le continent. Et ça, c'est encore un chantier à ouvrir.
Alors, on va continuer à en parler dans la deuxième partie de cette émission. Cyril Coutancé, nous allons en effet marquer une pause et on se retrouve dans 3 minutes après un point sur l'actualité de ces dernières heures. Alors, à tout de suite.
À tout de suite. We'll be right back.
Merci pour toutes ces informations. On se retrouve pour notre revue de 7 jours d'événements avec les reportages des correspondants et des envoyés spéciaux de RFI.
Une semaine d'actualité.
Nous parlons de la France et de la mer avec notre invité Cyril Coutancé, directeur de recherche au Centre d'études stratégiques de la marine et auteur d'un passionnant atlas historique de la France maritime au CNRS Édition. Dans quelques minutes, nous partirons pour l'Afrique.
RFI.
Mais pour le moment, Cyril Coutancé, l'actualité française est de grosses manifestations d'éleveurs qui protestaient contre la baisse du prix de la viande qui les met dans une situation difficile. Alors le gouvernement a annoncé des mesures d'urgence mercredi, 24 mesures exactement, qui visent à réduire leur endettement en principe. Insuffisant, ont dit les intéressés. Patricia Lecomte.
Les mines sont fatiguées et la déception se lit sur certains visages. Pour Philippe Marie, responsable de la section lait à la FDSEA du Calvados, c'est un énième plan d'aide qui ne résoudra rien à la situation catastrophique des 25 000 éleveurs.
Obtenir des enveloppes financières comme ça, c'est pas forcément ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir un marché qui fonctionne. Ça coûte rien aux contribuables, mais c'est des éléments qui sont de nature à nous permettre de vivre correctement. Il serait quand même grand temps que des gens qui travaillent 70 heures la semaine, sans quasiment jamais prendre de vacances, puissent quand même gagner un petit peu dignement leur vie, ça serait quand même pas trop demandé.
Il voulait que les accords du 17 juin entre les transformateurs et la grande distribution soient respectés, or ce n'est pas le cas. Yves Le Guidois était producteur de viande, une activité qu'il a dû abandonner faute de rentabilité.
J'ai peur qu'on soit déçus parce que nous promettre des choses alors qu'on sait très bien que l'État a des difficultés financières, ça faut pas se voiler la face, je sais pas où ils vont prendre l'argent. Bon, maintenant les mesures, on va attendre et voir, mais on n'est pas dupes non plus. Hein. Alors est-ce que c'est des mesures pour nous faire partir et nous faire patienter, mais de toute façon, si ça va pas, on reviendra fin août.
La FDSEA du Calvados a décidé de lever les barrages routiers, mais tous les agriculteurs restent mobilisés.
Sept jours en France.
Et là, on se retrouve au bord de la mer. Cyril Coutancé, je ne vais pas vous demander où, mais en tout cas, on est au bord de la mer, les mouettes, les bateaux, tout y est. On parlera de la pêche dans un instant, la pêche en France, avec un chiffre qui nous surprend beaucoup. Mais vous me disiez, en écoutant ce reportage sur les éleveurs, vous parliez d'un tout autre sujet, le Tour de France, qui a l'air de vous passionner. Et vous, ce qui vous frappe, c'est l'extension que prend ce sport, en fait, le cyclisme.
Oui, on parle souvent de la globalisation économique, mais la globalisation est aussi dans le sport. Et le Tour de France, c'est vrai que c'est assez étonnant quand on se repenche sur les années 80, parce que là, on fête les 30 ans de la dernière victoire française sur le Tour de France. Et à l'époque, il n'y avait que des Européens.
Ça commence à faire un peu long.
Ça fait un peu long. Mais il n'y avait que des Européens. Et là, par exemple, cette année, on a le premier coureur africain. Donc, c'est vraiment un sport qui vit au rythme de la globalisation, comme nous tous.
Alors, Tour de France à suivre sur notre antenne, évidemment, avec Frédéric Gassman et la carte postale de Stéphane Lagarde jusqu'à demain dimanche, puisque c'est l'arrivée sur les Champs-Élysées. Nous, on va repartir donc au bord de la mer, et pour parler de la pêche en France, avec ce chiffre, moi, qui me stupéfie, 80% du poisson consommé en France est importé.
Oui, 80% est importé parce que les...
Dans un pays qui a trois façades maritimes, Manche, Mer du Nord, Atlantique et Méditerranée. Hein.
Parce que les pêcheurs français sont surtout sur du poisson frais et que les consommateurs français sont friands de surgelés, de poissons surgelés, et sur lesquels sont plutôt les Norvégiens ou les grandes surfaces aussi. Intermarché a une flotte de pêche, par exemple, en tant que telle. Et donc, effectivement, il y a un peu une distorsion entre la consommation et la production, entre guillemets.
Oui, c'est quand même... Le chiffre peut paraître surprenant de prime abord. Hein.
Et puis l'enjeu, surtout, et là on le voit bien dans le monde entier quand on regarde ça de façon globale, on voit que se développe, parce que il y a eu, il y a encore un peu, mais ça a été un petit peu réduit. Il y a eu beaucoup de surpêche. Il y a des stocks qui ont été donc la capture est une pratique dans les années qui viennent qui aura sûrement tendance à diminuer et on va être de plus en plus vers de la culture d'élevage, donc de l'aquaculture. Alors qu'il posera en Chine par exemple, il y en a énormément, au Japon aussi. Ça posera d'autres questions parce que nous on l'a connu justement avec nos huîtres marraines de l'Héron, etc. Quand il y a un germe, par contre, qui affecte ces élevages, c'est toute la production qui y passe. Donc il y aura d'autres problématiques aussi, mais on voit se développer ça beaucoup maintenant.
Alors s'il fallait choisir une époque dans l'histoire de France, là je reviens à votre empire des mers, l'atlas historique de la France maritime, quelle serait la grande époque de la France maritime dans l'histoire de France? 17e, 18e, 16e?
Il y a la période jusqu'à la guerre de Hollande, donc jusqu'à ce que Louis XIV entre en guerre contre la Hollande, puisque là on a une marine très forte.
Au XVIIe siècle.
Au XVIIe, on a un début d'économie maritime qui est vraiment très impressionnant. Mais j'avoue que j'ai une petite tendresse pour la période du Second Empire. Parce que là, on a vraiment eu un équilibre entre l'économie maritime qui est en plein essor. La France était, par exemple, le premier producteur mondial de sardines. Ça, c'était une innovation faramineuse de la France. La France détenait 90% du marché de la sardine en boîte. Et à côté de ça, donc il y avait le développement des stations balnéaires aussi. On sait Deauville, Biarritz, par exemple. Et on avait une marine des forces navales qui était très forte aussi. La France avait la première marine à vapeur du monde. Napoléon III avait voulu investir là-dedans. Et donc, je trouve que c'est un beau modèle d'équilibre entre un secteur de l'économie maritime qui est soutenu par un gouvernement et qui développe des forces navales aussi.
Et est-ce que la période de la colonisation a développé la marine en France ou pas?
Alors, c'est très curieux, en fait. La période de la colonisation donc a été initiée par Richelieu, le premier empire colonial français, en tout
c'est
cas, aux
Amériques.
C'est lui
qui parlait de l'Empire des Mers, d'ailleurs, non?
C'est lui qui parlait de l'Empire des Mers, en disant que Dieu avait donné à la France l'Empire des Mers, puisque la France avait trois façades maritimes. Mais c'est lui qui donne le lancement du premier empire colonial français. Colbert accompagne ce mouvement. Et puis, sous Louis XV... on ne soutient plus ce mouvement, à savoir que la monarchie, donc Louis XV, décide d'abandonner l'investissement dans les forces navales. Et c'est le moment où l'Angleterre, par contre, décide d'investir beaucoup. Et donc, ça se terminera par la guerre de 7 ans, où on perdra toutes nos possessions en Inde, toutes nos possessions en Amérique du Nord. Alors, on a quelques restes comme le Québec, maintenant.
C'est ainsi que l'Angleterre est devenue la première puissance maritime du monde.
Voilà. Et qu'on peut se dire que si on avait persisté, l'Amérique parlerait française aujourd'hui. Donc, il y aurait peut-être des choses différentes.
Alors, Cyril Coutancet, revenons au présent et donc aux questions d'actualité liées à la mer. Il y a un chiffre là qui a été publié cette semaine. Au premier semestre 2015, donc les 6 premiers mois de cette année, 137 000 migrants sont arrivés en Europe via la Méditerranée, sans parler 137 000 victimes. Effectivement, c'est énorme.
C'est énorme. Alors c'est dans la continuité de l'année dernière, ceci dit. C'est évidemment très lié au conflit en cours au Proche-Orient, au conflit syrien, au conflit en Irak. On a toujours l'Érythrée aussi, où il y a énormément.
On en parlait la semaine dernière. Voilà.
Ouais. Et ensuite, il y a une voie maritime qui est privilégiée, dans le sens où la Libye étant en situation un peu confuse, il y a des possibilités maintenant pour des passeurs qui se font énormément d'argent en faisant passer justement des migrants en Europe, ou en essayant de les faire passer, il y a des possibilités pour des passeurs de s'y installer. Et donc la voie maritime est effectivement privilégiée, avec souvent des drames en mer effectivement qui se sont produits ces derniers mois.
Et maintenant l'Europe s'est saisie de la question, semble-t-il, et essaie de contenir cette immigration au large de la Libye.
Alors l'Europe, effectivement, oui. L'Europe, je dirais, a toujours été présente sur cette question-là. Il y a l'agence Frontex, donc qui gère ces migrations. Après, il faut que les États membres mettent à disposition aussi un certain nombre de navires. Il faut que les plans d'action soient bien pensés aussi. Donc effectivement, il y a pas mal de navires maintenant qui sont en mer pour récupérer ces migrants. Alors après, c'est aussi une migration qui est saisonnière, puisqu'il faut que les eaux de la Méditerranée soient calmes. Donc ça n'est pas présent sur l'ensemble d'une année. Il y a certains mois où il y a un afflux un peu plus important, on va dire.
Une semaine d'actualité.
Et nous allons partir pour l'Afrique, maintenant Cyril Coutancet, au Burundi d'abord, dont les électeurs ont choisi lundi leur président avec un intérêt relatif, vous l'avez entendu au début de cette émission, et dans une situation politique chaotique. Reportage à Bujumbura, la capitale, de notre correspondant Esdras Dikoumana.
Tout le monde était unanime hier dans de très nombreux bureaux de vote de Bujumbura. L'affluence était des plus faibles. Même dans un quartier comme Kamenge, considéré comme un fief du parti au pouvoir, impossible d'échapper à ce constat. Dismas Douayezu, président du bureau de vote numéro 3 à l'école primaire Kamenge 1.
Aujourd'hui, vraiment, ça s'est bien passé, sauf que c'est pas donc de la même façon que la fois passée. Aujourd'hui, on a commencé, donc il n'y avait pas beaucoup de personnes sur la ligne 2, 3. Mais la fois passée, dès le matin, 6 heures, il y avait déjà des électeurs qui étaient là. On voyait des lignes.
À 10 heures, il avait déjà accueilli que 80 votants, contre plus de 120 à la même heure, lors des législatives du 29 juin. Dans le quartier voisin d'Ogagara, à la pointe du combat contre le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza, c'est simple, pas âme qui vive jusqu'aux environs de 12 heures, comme le reconnaît la présidente locale de la commission électorale, Annick Arlène Natchiasava.
Non, ils n'ont pas encore venu. Ceux qui ont déjà voté, ce sont des sordants et des policiers.
Les autres, vous les attendez?
Oui, on attend jusqu'à 17 heures.
La même scène s'est répétée dans de nombreux quartiers, comme au centre de vote de l'école internationale du quartier de Kinindo.
Ça fait combien de temps que vous n'avez pas vu quelqu'un là?
C'est à peu près des heures qu'on n'a pas vu quelqu'un entrer ici pour voter.
Ah oui, c'est vraiment au compte-goutte. Hein?
Ouais. Hier, les agents électoraux se sont fort ennuyés. Certains discutaient en petit comité, d'autres jouaient aux cartes et d'autres encore faisaient une petite sieste.
Autre reportage, cette fois dans une zone favorable à l'opposition au président sortant, Pierre Nkurunziza, et même torpeur, avec notre envoyé spécial, Sonia Rollet.
Province Bururi, lycée Moutana, une demi-heure avant la fermeture des bureaux de vote. Vous êtes à combien de votants?
Maintenant, nous avons 49.
Sur combien d'inscrits?
348. Depuis le matin jusqu'à cette heure-ci, avoir de tels nombres, ce n'est pas du tout bon.
Vous pensez que c'est lié à la question du troisième mandat ou pas?
Je pense.
Province Moro, école primaire Niamatovu. Ici, lors des précédents scrutins, 32 votants sur 3 bureaux de vote. Cette fois, on atteint la centaine, mais sur plus de 900 inscrits.
Il y a une petite amélioration, mais c'est pas beaucoup.
C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, c'est moins.
Comment vous expliquez ça?
C'est à cause du troisième mandat.
Ambiance détendue, 17h30, province Bujumbura rurale, commune Kanyosha. Le dépouillement est terminé. Dans ce centre de vote, la participation n'excède pas 30%.
Qu'est-ce qui a remporté ici?
C'est FNR. Non, Runani Amizero de Barundi. Voilà ça. 75,29%.
Et le CNDD FDD fait combien?
C'est le second. Avec 17,6.
Sans surprise, dans ces trois bureaux de vote, c'est l'opposant Agathon Rwasa qui l'emporte, dans ce qui a toujours été connu comme son fief, loin devant le parti au pouvoir.
Les moyens de déplacement au Burundi, c'est très difficile quand même.
Nous allons y aller à pied. On ne sait pas qu'on va nous envoyer des voitures pour nous aider.
Mais c'est-à-dire avec les bulletins et tout le reste, vous partez à pied?
Yeah, on va les porter sur la tête.
L'Afrique qui vote donc, résultat sans surprise de cette élection dans nos journaux.
Jours en Afrique.
Lundi devait être une journée historique pour le continent. Pour la première fois, une juridiction africaine devait juger un ancien dictateur africain, en l'occurrence le Tchadien Hissène Habré, pour crimes contre l'humanité, torture et crimes de guerre commis lorsqu'il était au pouvoir, c'est-à-dire entre 1982 et 1990. Eh bien, finalement, il va falloir encore attendre jusqu'au 7 septembre prochain. Karine Franck, à Dakar.
C'est sans doute le dernier combat de Hissène Habré, l'ancien chef rebelle devenu chef d'État, compte livrer bataille jusqu'au bout. Le tribunal qui le juge, il ne le reconnaît pas, il refuse d'assister aux audiences, on l'y conduit de force, qu'à cela ne tienne, ses partisans provoquent l'incident, les forces de sécurité le conduisent manu militari dans le box des accusés, il résiste, se débat, jusqu'à être conduit hors de la salle d'audience, mission accomplie. En bon chef de guerre, Hissène Habré organise aussi sa défense. Il a positionné ses deux avocats à l'extérieur de la salle d'audience. Il boycotte le procès. La cour lui désigne alors trois avocats d'office. Il va les récuser, prédit son défenseur, maître François Serre. Le risque, c'est qu'il arrive à prendre le procès en otage, s'inquiète maître William Bourdon, avocat des parties civiles. Et ce sera 45 jours de perdu. Si les avocats commis d'office se lancent dans une bataille de procédure, ce sera encore un moyen de saper les bases de ceux qui l'attaquent. La stratégie de Hissène Habré est clair, se poser en victime d'une vaste coalition néocolonialiste. Mais en face, la partie adverse n'a pas dit son dernier mot. Son arme, la patience et la détermination.
Notre voyage africain continue effectivement. Cyril Coutancet, vous êtes très très attentif en écoutant tous ces reportages. Et nous partons pour le Cameroun, car il y a eu un double attentat perpétré par deux femmes kamikazes mercredi à Maroua, à l'extrême nord du pays. Plus de 10 morts et une trentaine de blessés, correspondant ce jour-là de Polycarpe et Somba.
Le bilan n'a pas fini de s'alourdir tout au long de la soirée. Les dizaines de blessés transportés dans un état souvent grave dans les hôpitaux de la ville ont pour certains succombé à leurs blessures. Maroua, capitale régionale d'extrême nord et l'une des plus importantes villes du pays, a quant à elle littéralement plongé dans l'horreur, l'émoi et la consternation. La ville qui redoutait depuis les attentats de Fotokol un drame de même type est désormais la première ville éloignée de la ligne de front à subir de plein fouet les exactions des criminels sanguinaires, selon les termes du communiqué de la présidence de la République qui a, dans la foulée, condamné ces attentats. La jeunesse des kamikazes n'en finit pas d'émouvoir. Des photos de jeunes filles déchiquetées et présentées comme les kamikazes ont abondamment circulé dans les réseaux sociaux. Outre le durcissement des contrôles et autres mesures de sécurité, le gouverneur de la région a déjà instruit le recensement de tous les ressortissants étrangers dans les 72 heures.
On vous parle du voyage de Barack Obama au Kenya ce matin dans nos journaux. Avant ce déplacement symbolique, rappelons que le président américain a de la famille dans le pays, son père y est né. Avant donc ce déplacement, notre envoyé spécial Nicolas Champeau nous a proposé différents reportages, notamment sur les attentes des Kenyans. Écoutez celui-ci réalisé dans le bidonville de Kibera à Nairobi, la capitale.
Dans les quartiers d'affaires de Nairobi, il y a des 4x4 et l'internet 4G. À Kibera, il y a des brouettes, des chèvres et des tas d'immondices jonchent la chaussée. Islam Laïta est musicien, il n'attend pas grand-chose de la visite d'Obama.
La visite d'Obama, ce n'est pas mauvais, mais c'est pour les riches et pas pour les pauvres comme nous. Il faut qu'ils viennent ici, à Kibera, pour voir un peu comment on vit et comment il peut augmenter notre niveau de vie. Il doit venir, et s'il n'a pas assez d'argent pour l'essence de sa voiture, allez, on peut faire une donation, on peut contribuer.
Kadombane balaye la rue avec un groupe de femmes, un emploi décroché grâce au NYS, un programme gouvernemental pour les jeunes, payé 3 euros la journée. C'est peu quand on a une famille, se désole Kadombane, ses enfants ont 2 et 3 ans. Sur le petit terrain vague, en contrebas, Maxwell, la vingtaine et désœuvré, discute avec ses amis sur des sauts retournés, il est plus enthousiaste. J'adore Obama, il est de chez nous, c'est une bonne personne, c'est un homme du peuple. Faisons la connaissance de Rachel, institutrice. Elle nous montre l'extension de sa maison. Cela va plutôt bien, mais le shilling kenyan a baissé. Prix des denrées augmente. Cela montre Rachel qui compte sur les bonnes idées d'Obama pour améliorer l'économie du pays et le quotidien du bidonville.
semaine.actu@rfi.fr.
C'était notre adresse électronique, vous la connaissez par cœur, il faut que vous l'utilisiez. Merci pour vos messages, continuez donc à nous écrire, nous vous accompagnons tout l'été. Un salut par exemple à Hippolyte, spécialiste de relations internationales à Yaoundé. Les libérateurs des années d'après la décennie 90 dans la région des Grands Lacs africains deviennent des dictateurs en s'obstinant à se maintenir au pouvoir, écrit-il. Bonjour à Alpha Oumar, bonjour à tous les fidèles de RFI, écrit-il. Lui, j'invite la CENI à éviter le cas ivoirien en Guinée lors des élections de 2015. Bonjour Alfred à Bukavu, il est très intéressé lui par le rétablissement des relations diplomatiques entre les États-Unis et Cuba. Un salut à Ben Lukazu, à Mamadou Maximo, à Cathy au Mali et à Elisabeth à Bordeaux.
Sept jours en Afrique.
Et nous sommes toujours en compagnie de Cyril Coutancet, auteur d'un empire des mers, atlas historique de la France maritime. J'ajoute un tout petit message à tous ceux que nous avons reçus cette semaine. Un bonjour à travers une semaine d'actu. Je dis bravo à mes élèves du lycée technique Ganga qui ont eu leur sésame, c'est-à-dire le bac, écrit un auditeur de Bamako. Et chapeau aux demoiselles Fatoumta, Aïssata et Aminata. Elles ont toutes eu la mention bien en série comptabilité finance. Chez nous, écrit-il, c'est les filles qui travaillent bien. Bonne semaine à tous sur RFI. C'était Chia depuis les abords du fleuve Djoliba à Bamako. Merci, Tchaka. Nous continuons avec vous, Cyril Coutancet. Quels sont pour vous les enjeux maritimes pour l'Afrique aujourd'hui? 54 pays africains, il faut le rappeler.
Alors, Moi, je vois essentiellement trois enjeux. Il y a un enjeu qui a occupé beaucoup la Somalie, c'est la question de la piraterie. Donc, elle était très forte en Somalie. Maintenant, avec notamment l'opération européenne Atalante, elle a fortement diminué. Maintenant,
elle
préoccupe,
elle est toujours là.
Elle est toujours là. Mais ce qui préoccupe maintenant beaucoup, c'est la piraterie dans le golfe de Guinée. Et à tel point que l'Union européenne, justement, vient de mettre en place une structure, CRIMGO, pour essayer de coordonner les efforts des pays de la région et d'apporter une solution, parce que c'est une piraterie qui flambe depuis peu. Et dans le golfe de Guinée, c'est pas hasard s'il y a une piraterie, parce qu'il y a aussi des ressources offshore importantes. Et ça, c'est un deuxième point d'attention en Afrique. Le pétrole et le gaz offshore, on avait coutume de le voir sur la côte atlantique, plutôt. Oui. Et maintenant, on en trouve aussi en océan Indien, puisque le Mozambique a des champs qui sont très prometteurs, justement, au large de ses côtes. C'est pas un hasard d'ailleurs s'il a commandé des patrouilleurs à la France. C'est pour préserver ses zones économiques exclusives. Donc les ressources en hydrocarbures sont aussi un élément très important et un élément essentiel aussi parce que ça fait vivre des milliers de familles. C'est la question de la pêche, qui est une question essentielle dans le sens où on a une pêche artisanale en Afrique et à côté de ça, on a des licences qui peuvent être données par les États à des grandes flottilles de pêche étrangères et donc il y a toujours un déséquilibre entre ces licences, quand elles sont accordées, qui peuvent avoir un impact très fort sur les populations. Et ça, c'est un enjeu, effectivement, sur la surpêche aussi, c'est un enjeu fort pour l'Afrique.
C'est intéressant ce qu'on dit, Thierry Lecoutancé, parce qu'on a, là aussi, on a l'impression que souvent l'Afrique tourne le dos à la mer. Hein.
Une partie, peut-être.
Ouais, une partie, simplement. Je voudrais qu'on termine cette émission avec les océans et l'avenir, en fait, parce qu'il y a toute une nouvelle activité, de nouvelles activités qui naissent à partir de la mer. Que l'on ignore en général.
Tout à fait. Je serai pas exhaustif parce qu'il y en a, plusieurs, mais il y a une activité qui est très lancée, c'est tous les médicaments qui sont découverts sur la base de ressources marines, de faune et de flore marine. On a des traitements contre le cancer qui existent déjà. Ça vient du fait que le génome de la faune et de la flore marine est très diversifié, beaucoup plus qu'à terre, puisqu'il y a des milieux extrêmes. Et donc, il y a des possibilités qui sont absolument hors normes. Il y a une start-up bretonne, actuellement, qui travaille sur la création d'un sang artificiel à partir d'un ver marin. Donc, il y a des tas de possibilités, qui sont très intéressantes. Il y a un marché qui est en plein essor aussi et qui est assez étonnant, c'est le marché de l'algue. Alors l'algue se retrouve déjà dans plein de est très utile pour comme épaississant, comme gélifiant, ça se retrouve dans des produits cosmétiques, dans des crèmes dessert, dans pas mal de choses et l'algue se consomme depuis très longtemps en Asie aussi comme aliment. On peut les présenter un peu comme les végétaux des mers. Dans nos cultures européennes, c'est pas encore le cas, mais avec la mode du sushi etc., ça pourra peut-être arriver et c'est un marché en tout cas sur lequel on a des PME française qui, pour l'instant, essaie de se positionner, justement.
Quand on vous écoute, Thierry Lecoutancé, on a l'impression que les océans constituent un nouvel Eldorado, en fait. Et que une grande part de ces océans, d'ailleurs, sont inconnus.
Justement, la difficulté, c'est qu'il faudra trouver un équilibre entre les ressources que l'on connaît et l'exploitation de ces ressources, parce que, justement, il y a, par exemple, 90% des fonds marins qu'on n'a jamais explorés de visu, tellement c'est gigantesque.
Donc, il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. On connaît mieux la Lune que les fonds abyssales, en fait.
Et donc, de lancer une exploitation à grande échelle, il faut faire attention que ce ne soit pas non plus, il faut trouver le bon équilibre et que ce soit pas trop destructeur pour la faune et la flore marine qu'on ne connaît pas encore et qui peut être d'un apport extraordinaire pour l'humanité.
Est-ce qu'à votre avis, la France va retrouver ses océans, en fait, va regarder vraiment à nouveau les océans, la mer, enfin, sa façade maritime?
En tout cas, les acteurs économiques, les acteurs du monde de la recherche, je pense à un centre de recherche comme celui d'Ifremer, sont très présents, sont très actifs. Il faudrait que le mouvement soit encore plus dynamique, mais en tout cas, il y a déjà énormément d'acteurs qui sont tournés vers les océans et qui font des très belles choses.
Et quels sont les ports qui comptent aujourd'hui en France?
En France, deux, en tout cas, pour le commerce international, il n'y en a que deux, c'est Marseille et Le Havre. Ouais. Et puis après, on a des ports de pêche qui sont relativement importants, mais c'est vraiment les deux ports essentiels.
Il faut rappeler qu'il y a une chute du classement des ports français, parce qu'il y en avait beaucoup plus avant Saint-Nazaire, par exemple.
Oui, alors, mais après,
la construction navale, d'ailleurs, Saint-Nazaire. Ouais.
Il y a encore de la construction navale, effectivement. Et il faut savoir que la France est quand même numéro un dans les bateaux de plaisance. Ouais. Donc il y a aussi, en construction navale, il y a des choses qui sont importantes. Mais au niveau des ports, il y a la tendance à avoir des mastodontes sur les mers, des gigantesques ports conteneurs. Ça élimine de facto, un certain nombre de ports, parce qu'il faut avoir des eaux profondes, il faut pouvoir les accueillir, en fait, tout simplement. Donc, en gros, on pourra compter sur Le Havre et Marseille, et c'est à peu près tout, pour accueillir ces gens des mers. Après, les autres ports peuvent servir de ports de déchargement, ou pour d'autres activités aussi.
Alors, ce qui est frappant, c'est en tout cas que la population française, elle, a tendance à se déplacer vers les océans pour acheter des appartements et des maisons le long du rivage. Ça, c'est étonnant aussi.
Oui, et ça crée une pression, d'ailleurs, c'est quelque chose, il faut trouver un bon équilibre, parce que ça crée une pression sur les les activités économiques. Mmh. C'est-à-dire qu'il faut, il y a l'accueil, il y a les gens qui veulent être effectivement vivre, résider près du littoral. En même temps, il faut maintenir de l'activité économique. Il y a besoin d'emprises importantes pour un port de commerce, par exemple. Et donc, c'est toute cette gestion d'activités concurrentes, de préoccupations concurrentes qui se fait de plus en plus finement et qui est compliquée.
Vous allez partir en vacances bientôt au bord de la mer, non ?
Au bord de, en montagne et puis après au bord de la mer.
Quand même. Merci Cyril Coutancet. L'Empire des mers, c'est le titre de votre atlas historique de la France maritime publié au CNRS édition avec le Musée National de la Marine. Merci d'être venu nous voir avant de partir en vacances.
Merci à vous.
Une semaine d'actualité réalisée par Vanessa Rovensky. En août, c'est Daniel Grillon qui vous proposera l'émission. Je vous retrouve demain avec Idée qui vous accompagne aussi cet été. Nous parlerons avec notre invitée Céline Flory des travailleurs africains engagés dans la Caraïbe française au 19e siècle. C'est un moment peu connu de l'histoire de la France et de l'Afrique. Demain dimanche donc, 17h10, heure de Paris. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI.